C'est le troisième des fondements de la foi que nous voulons rappeler aujourd'hui. Et j'ai intitulé le sujet qui doit attirer nos réflexions et sur lequel nous devons chercher l'enseignement de la parole de Dieu, la création et ses avaries. Alors vous savez ce que signifie ce terme, je pense que le sujet n'est pas difficile à repérer pour vous, mais que le terme d'avarie ne vous est peut-être pas tout à fait familier. On parle d'avarie surtout pour les navires, hein. Vous avez entendu sans doute que le porte-avions Charles de Gaulle a subi des avaries assez humiliantes avec les fissures de son énorme hélice. Il a été donc immobilisé. Il s'agit, si je parle des avaries de la création, des dommages qu'elle a subis, des malheurs qui ont suivi la création même. Et puis je fais allusion, en utilisant le terme d'avarie dans le titre, aussi au verbe s'avarier. Vous savez ce qui arrive à une viande que vous laissez trop longtemps dans un frigo un peu tiède? Elle devient de la viande avariée. Et l'image de la pourriture, en langage plus distingué, on dit la corruption, mais c'est la même chose. L'image de la pourriture est une image que la Bible utilise pour la création, pour ce qui lui est advenu après qu'elle était sortie bonne, très bonne, des mains du Créateur. Les vérités que nous avons à considérer, donc, sous ce titre, la création et ses avaries, concernent les vérités fondamentales de la parole de Dieu, celle par laquelle la Bible commence, ce qui nous est rapporté dans les premiers chapitres de la Genèse, et c'est un sujet qui est déterminant pour tout le reste de la révélation. Aucun sens ne pourrait subsister des prophètes, de la vie de Jésus, du message de l'Évangile, si l'on effaçait ces vérités premières de la création et des avaries de la création, ce qu'on appelle très couramment l'introduction du péché. Luther disait que les premiers chapitres de la Genèse constituent le fondement de toute l'Écriture. C'est donc l'importance du sujet que je fais ressortir, qui nous occupe ce matin. J'ai pensé que le mieux serait pour nous de relire les trois premiers chapitres de la Genèse. C'est une lecture un peu longue, mais elle ne nous fera pas de mal. En outre, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant, pour changer, de la lire dans la version d'André Chouraki, ancien maire de Jérusalem, universitaire et auteur juif. Je mets version, quand je la cite, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment tout à fait une version. Le principe de la traduction, c'est que vous rendez un mot par un mot de sens équivalent. Or, ce n'est pas tout à fait ce qu'a fait Chouraki. Chouraki a cherché à retrouver l'essence étymologique, c'est-à-dire l'essence ancestrale des mots, et a donné en français quelque chose qui est un même sens ancestral que le terme hébraïque. Parfois, c'est une trouvaille, parce que le sens courant d'un mot se réfère quand même à son histoire ancienne et à ce que j'appelle le sens ancestral, ou on dit en général étymologique. Parfois, ça retombe à plat, parfois, c'est donc pas tout à fait le sens de l'original. Mais ça reste intéressant. Ça donne un texte curieux, frappant, et comme vous connaissez bien, je pense, le texte du début de la Genèse, que vous pouvez de toute façon suivre dans une traduction qui est faite selon les règles habituelles, il peut vous être intéressant d'entendre la lecture de la version Chouraki. Elle est un peu rugueuse, mais elle a comme une saveur particulière, et cela pourra nous être instructif. Je signale qu'en ce qui concerne les choix de traduction, j'ai aussi dans mon livre Révélation des origines proposé une traduction pour ces premiers chapitres. Mais je ne vais pas utiliser la mienne dans cette lecture, je vais utiliser celle donc de ce qu'on appelle la Bible Chouraki. J'en ai ici un exemplaire. Après cette lecture, nous remettrons au Seigneur notre travail en commun et nous le prions. prierons de nous aider, de nous guider. Et je demanderai, mais après notre lecture, à M. Joël Adélaïde de nous conduire dans la prière. En tête, Elohim. Elohim, il ne l'a pas traduit. C'est le nom qui se traduit le plus souvent, Dieu. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim dit, une lumière sera, et c'est une lumière. Elohim voit la lumière, quel bien! Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Elohim crie à la lumière, jour! À la ténèbre, il avait crié, nuit! Et c'est un soir, et c'est un matin, jour 1. Elohim dit, un plafond sera au milieu des eaux. Il est pour séparer entre les eaux et entre les eaux. Elohim fait le plafond. Il sépare les eaux sous le plafond des eaux sur le plafond, et c'est ainsi. Elohim crie au plafond, ciel! Et c'est un soir, et c'est un matin, jour 2. Elohim dit, les eaux s'aligneront sous les ciels vers un lieu unique. Le sec sera vu. Et c'est ainsi. Elohim crie au sec, terre. À l'alignement des eaux, il avait crié, mer. Elohim voit, quel bien. Elohim dit, la terre gazonnera du gazon, herbe semence, arbre fruit faisant fruit pour son espèce, dont la semence est en lui sur la terre. Et c'est ainsi. La terre fait sortir le gazon, herbe semence pour son espèce, et arbre faisant fruit, dont la semence est en lui pour son espèce. Elohim voit, quel bien. Et c'est un soir, et c'est un matin, jour 3. Elohim dit, des lustres seront au plafond des ciels, pour séparer le jour de la nuit. Ils seront pour les signes, les rendez-vous, les jours et les ans. Ce sont des lustres au plafond des ciels pour illuminer sur la terre. Et c'est ainsi. Elohim fait les deux grands lustres, le grand lustre pour le gouvernement du jour, le petit lustre pour le gouvernement de la nuit et les étoiles. Elohim les donne au plafond des ciels pour illuminer sur la terre, pour gouverner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière de la ténèbre. Elohim voit, quel bien. Et c'est un soir et c'est un matin, jour 4. Elohim dit, les eaux foisonneront d'une foison d'êtres vivants, le volatile volera sur la terre, sur les faces du plafond des ciels. Elohim crée les grands crocodiles, tous les êtres vivants rampants dont ont foisonné les eaux pour leurs espèces, et tout volatile ailé pour son espèce. Elohim voit, quel bien. Elohim les bénit pour dire, fructifiez, multipliez, emplissez les eaux dans les mers, le volatile se multipliera sur terre. Et c'est un soir et c'est un matin, jour 5. Elohim dit, la terre fera sortir l'être vivant pour son espèce, bête, reptile, le vivant de la terre pour son espèce. Et c'est ainsi. Elohim fait le vivant de la terre pour son espèce, la bête pour son espèce et tout reptile de la glèbe pour son espèce. Elohim voit, quel bien. Elohim dit, nous ferons Adam, le glébeux, à notre réplique, selon notre ressemblance. Ils assujettiront le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim crée le glébeux à sa réplique, à la réplique d'Elohim il le crée, mâle et femelle il les crée. Elohim les bénit. Elohim leur dit, fructifiez, multipliez, emplissez la terre, conquérez-la, assujettissez le poisson de la mer, le volatile des ciels, tout vivant qui rampe sur la terre. Elohim dit, voici je vous ai donné toute l'herbe semence sur les faces de toute la terre, et tout arbre avec en lui fruit d'arbre, semence, pour vous il sera à manger. Pour tout vivant de la terre, pour tout volatile des ciels, pour tout reptile sur la terre avec en lui être vivant, toute verdure d'herbe sera à manger. Et c'est ainsi. Elohim voit tout ce qu'il avait fait, et voici un bien intense. Et c'est un soir, et c'est un matin, Jour sixième. Ils sont achevés, les ciels, la terre et toutes leurs milices. Elohim achève au jour septième son ouvrage qu'il avait fait. Il chôme le jour septième de tout son ouvrage qu'il avait fait. Elohim bénit le jour septième, il le consacre. Oui, en lui, il chôme de tout son ouvrage qu'Elohim crée pour faire. Voilà les enfantements des ciels et de la terre en leur création, au jour de faire Adonai Elohim. Adonai, c'est le Seigneur, c'est ce qui traduit l'éternel ou rendu l'éternel dans beaucoup de Bibles protestantes. Donc il ne traduit pas non plus, c'est comme Elohim, Adonai, c'est ce qu'on lit dans la synagogue. Donc au jour de faire Adonai Elohim, terre et ciel. Tout buisson du champ n'était pas encore en terre, toute herbe du champ n'avait pas encore germé. Oui, Yahvé Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et de glébeux, point pour servir la glèbe. Mais une vapeur monte de la terre, elle abreuve toutes les faces de la glèbe. Adonai Elohim forme le glébeux Adam, poussière de la glèbe Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie, et c'est le glébeux, un être vivant. Adonai Elohim plante un jardin en Éden, au levant. Il met là le glébeux qu'il avait formé. Adonai Elohim fait germer de la glèbe tout arbre convoitable pour la vue et bien manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sort de l'Éden pour abreuver le jardin. De là, il se sépare, il est en quatre têtes. Nom de l'un, Pishon, qui contourne toute la terre de Havila, là où est l'or. L'or de cette terre est bien. Et là se trouvent le bdélium et la pierre d'onyx. Nom du deuxième fleuve, Gihon, qui contourne toute la terre de Cush. Nom du troisième fleuve, Ridekel, qui va au levant d'Achour. Le quatrième fleuve est le Frat. Adonai Elohim prend le glébeux et le pose au jardin d'Éden pour le servir et pour le garder. Adonai Elohim en donne au glébeux pour dire, « De tout arbre du jardin, tu mangeras, tu mangeras. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » Adonai Elohim dit, « Il n'est pas bien pour le glébeux d'être seul. Je ferai pour lui une aide contre lui. » Adonai Elohim forme de la glèbe tout animal du champ, tout volatile des ciels. Il les fit venir vers le glébeux. Il les fait venir vers le glébeux pour voir ce qu'il leur criera. Tout ce que le glébeux crie à l'être vivant, c'est son nom. Le glébeux crie des noms pour toute bête, pour tout volatile des ciels, pour tout animal du champ, mais au glébeux, il n'avait pas trouvé d'aide contre lui. Adonai Elohim fait tomber une torpeur sur le glébeux. Il sommeille. Il prend une de ses côtes et ferme la chair dessous. Adonai Elohim bâtit la côte qu'il avait prise du glébeux en femme. Il la fait venir vers le glébeux. Le glébeux dit, « Celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, à celle-ci il sera crié femme, Isha, oui de l'homme, Ish, celle-ci est prise. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Les deux sont nus, le glébeux et sa femme, ils n'en blêmissent pas. Le serpent était nu, plus que tout vivant du champ qu'avait fait Adonai Elohim. Il dit à la femme, « Ainsi, Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, car Elohim sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront, vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. » La femme voit que l'arbre est bien à manger, oui, appétissant pour les yeux, convoitable l'arbre pour rendre perspicace. Elle prend de son fruit et mange. Elle en donne aussi à son homme avec elle et il mange. Les yeux des deux se dessillent. Ils savent qu'ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier, se font des ceintures. Ils entendent la voix d'Adonai Elohim qui va dans le jardin au souffle du jour. Le glébeux et sa femme se cachent face à Adonai Elohim au milieu de l'arbre du jardin. Adonai Elohim crie au glébeux, il lui dit, « Où es-tu ?» Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai frémi. Oui, moi-même, je suis nu et me suis caché. Il dit, qui t'a rapporté que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé? Le glaibeux dit, la femme qu'avec moi tu as donnée m'a donné de l'arbre, elle, et j'ai mangé. Adonai Elohim dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, le serpent m'a abusé et j'ai mangé. Adonai Elohim dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es honni parmi toutes bêtes, parmi tout vivant du champ. Tu iras sur ton abdomen et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme, entre ta semence et entre sa semence. Lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. À la femme, il l'a dit, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Dans la peine, tu enfanteras des fils. À ton homme, ta passion, lui, il te gouvernera. Au glaibeux, il dit, oui, tu as entendu la voix de ta femme et mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné pour dire, tu n'en mangeras pas. Honni est la glaibe à cause de toi. Dans la peine, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Elle fera germer pour toi, cartam et chardon. Mange l'herbe du champ. À la sueur de tes narines, tu mangeras du pain. Et jusqu'à ton retour à la glaibe dont tu as été pris. Oui, tu es poussière. À la poussière, tu retourneras. Le glaibeux crie le nom de sa femme, Hawa, vivante. Oui, elle est la mère de tout vivant. Adonai Elohim fait au glaibeux et à sa femme des aubes de peau et les envêt. Adonai Elohim dit, voici, le glaibeux est comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Maintenant qu'il ne lance pas sa main, ne prenne pas aussi de l'arbre de vie, ne mange et vive en pérennité. Yahvé Elohim le renvoie du jardin d'Éden pour servir la glèbe dont il fut pris. Il expulse le glaibeux et fait demeurer au levant du jardin d'Éden les kéroubim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder la route de l'arbre de vie. Prions ensemble. Comme les autres fois, j'ai préparé quelques petits dessins. Il paraît que ça aide, donc je me force à le faire, mais il n'y a pas le tableau. Il n'y a pas le tableau. Est-ce que quelqu'un pourrait voir s'il est dans la sacristie, le tableau avec un feutre pour que je puisse vous proposer ces petites choses? J'ai trois points principaux, trois sujets à aborder sous mon titre général. La création, l'humain et... ce qu'on peut appeler de divers termes, il s'agit des avaries, ce que j'intitule en sous... Merci beaucoup. Ce que j'intitule en sous-titre « L'apostasie ». Comme nous l'avons relu, la Bible commence par cette affirmation majestueuse « Au commencement, Dieu créa ». C'est le commencement du commencement. C'est le principe fondamental qui est posé dès le premier verset. Merci bien, merci. Et on a fait remarquer que par ce premier verset, par ces premiers mots de la Bible, elle rompt avec toute la mentalité païenne. Tout ce que les peuples laissaient à leurs seules ressources, faisant fonctionner leur intelligence d'homme naturel, ont produit, tous les mythes peuvent se rapprocher de l'idée de création, mais aucun n'y atteint. Les mythes, fatalement, ont un Dieu qui fait toujours plus ou moins partie du monde, qui est le fond même de la réalité mondaine. Merci bien. Merci. Dieu créa, c'est une affirmation qui est unique dans le champ des religions. Après la Bible, là où l'influence biblique a gagné, comme dans l'islam par exemple, l'islam a subi très fortement l'influence de la Bible. Alors l'idée de création est encore maintenue, mais c'est en la Bible qu'elle a émergé. Alors qu'est-ce que créer? Que signifie ce terme même? Le terme est plus fort dans la Bible qu'il ne l'est dans notre usage courant. Nous parlons très très couramment des créations des grands couturiers. Lorsque quelqu'un fait quelque chose d'un petit peu remarquable, on emploie très facilement le verbe créer. Dans cette forme fondamentale de la conjugaison en hébreu, où il est employé ici, il n'est employé que pour Dieu. C'est pour une œuvre divine que le verbe créer est employé, et cela nous conduit à mettre en valeur ce qui est propre, unique, dans l'opération créatrice. Et je mettrai en valeur deux points principaux. Créer n'est pas fabriqué. Certes, comme fabriquer, créer est une façon de faire. Et c'est ce que le chapitre 2, verset 3 de la Genèse nous suggère en disant l'œuvre que Dieu a créée pour la faire. C'est un mode excellent et suréminent de faire que créer, mais qui se distingue précisément de fabriquer. Quelle est la différence ? Foncièrement, fabriquer présuppose toujours une matière qui est là à disposition, mais qui, bien sûr, aussi pourra se montrer rebelle. Celui qui travaille une matière pour fabriquer quelque chose, il ne peut pas la traiter parfaitement à sa guise. Il doit en respecter les caractéristiques. Il est limité, il est dépendant de la matière qu'il utilise. L'idée de la constitution du monde, par exemple, chez les plus grands des philosophes de la Grèce antique, c'était qu'il y avait une matière, et qu'un ouvrier divin s'était servi de cette matière, et qu'à l'imitation des formes idéales qui étaient comme réunies dans un ciel, cet ouvrier divin avait confectionné les choses du monde, mais dans une matière toujours un peu rebelle. Ces philosophes expliquaient le mal par cette difficulté de soumettre entièrement cette matière, toujours un indice de résistance. Fabriquer, c'est tenir compte des caractères d'une matière, c'est toujours transformer quelque chose et non pas faire apparaître une réalité entièrement neuve. Et du coup, c'est aussi obéir à un certain nombre de lois. Le propre de l'action créatrice, c'est qu'elle fait surgir de rien, ou de Dieu lui-même. C'est Dieu seul qui produit ce qu'il crée. On dit souvent, en utilisant la formule latine, de rien, ex nihilo, ça veut dire de rien, simplement, du néant, que la création est une opération qui est ex nihilo. Mais il faut noter aussi que créer se distingue d'engendrer. Le mode de la fabrication est écarté à gauche, mais il ne faudrait pas s'imaginer qu'alors, créer soit pour Dieu, en quelque sorte, faire s'écouler de sa propre substance, comme dans l'engendrement ou comme dans l'émanation, faire s'écouler quelque chose qui serait lui-même en fait, comme un morceau de lui-même, comme un écoulement de son propre être. Non, créer marque une distinction radicale entre le créateur et la créature, qui ne peuvent pas être confondus et considérés comme ayant une seule et même nature. Créer suppose un libre vouloir, suppose une délibération, Dieu agit librement et la créature dépend de sa volonté. Dieu ne dépend en aucune façon de la créature et la créature dépend totalement du créateur. Vous voyez déjà là le décalage radical, la différence de qualité entre le créateur et la créature est impliquée dans l'idée de création. La création, ce n'est ni une fabrication, ni un engendrement ou une émanation. Alors il reste que dans sa création, Dieu s'exprime comme celui qui fait surgir avec son propre pouvoir et selon sa propre sagesse ce qui n'était pas, et que dans les activités de sa créature, il y a comme de petits reflets, très très infirmes, très pâles. On peut dire que lorsque nous fabriquons, oui, il y a quand même un tout petit reflet de la création comme Dieu crée. Parce que même si c'est essentiellement de la transformation, nous transformons du bois en pupitre, en table, il y a quand même quelque chose de nouveau qui surgit. Parce qu'il n'y avait pas de table avant, donc c'est quand même quelque chose de neuf. C'est un petit reflet d'analogie de ce qui est la création pour Dieu. Et puis je pense qu'on doit dire aussi que dans la procréation, c'est pas pour rien qu'on dit procréation, dans l'engendrement, il y a aussi un reflet de l'œuvre créatrice de Dieu, qui est parfois, c'est pas très, très fréquent, mais qui est parfois appelé Père dans le sens de créateur, dans l'Ancien Testament. Tu es notre Père, c'est toi qui nous as fait, vous voyez. Donc, il ne faut pas écarter qu'il y ait de petits reflets, mais il ne faut pas confondre les notions. Alors, quelle est la portée de cette affirmation « Dieu créa » Dieu créa les cieux et la terre. Je pense que l'un des enjeux principaux de la doctrine de la création, et donc l'une des significations principales de Dieu créa, c'est que le monde n'est pas le premier ni le dernier. C'est que la réalité mondaine, qui est celle qui tombe sous les sens, qui a l'air d'être au premier coup d'œil la seule réalité autour de nous, est en quelque sorte déclassé de ce que cette première impression pourrait lui attribuer. Ce n'est pas la réalité première, ce n'est pas la réalité dernière, car c'est une réalité qui a été créée. C'est par rapport au statut du monde, à la réalité du monde, que l'affirmation « Dieu créa » a une portée immédiate, extrêmement importante. Ça signifie que le monde ne s'explique pas par lui-même, que le monde n'est pas fermé sur lui-même comme s'il était l'unique réalité qui pouvait ne se comprendre que par lui-même. Le monde n'est pas une espèce d'enceinte circulaire absolument fermée où se retrouveraient prisonniers, en fait, les êtres humains, sans aucune possibilité de sortie, parce que le monde serait finalement le tout. La doctrine de la création exclut cette idée du monde qui aurait son propre sens en lui-même et par lui-même. Ça veut dire que la conception du réel qu'ont beaucoup de nos contemporains autour de nous est dénoncée comme une conception asservissante, une conception qui enferme l'être humain. C'est exprimé d'ailleurs dans le livre sur l'art moderne et la mort d'une culture. Je me rappelle que Rockmacher montre tel peintre qui exprimait par la boîte fermée cette hantise, cette expérience d'un enfermement dans un monde qui se considère comme le premier et le dernier, et dans lequel l'être humain étouffe. Donc, ce qui est exclu par Dieu créa, c'est cette fermeture du monde sur lui-même, et cette prétention qu'aurait le monde de détenir la clé de son propre sens. Le monde est ouvert, il est dépendant. Il est second, parce que c'est Dieu qui est le premier. Et s'il est second, il n'est pas l'ultime non plus. Il y a toujours possibilité de faire appel du monde à plus haut que le monde. Demande de même qu'on peut faire appel d'un tribunal de second rang à une cour d'appel, de même, parce que le monde n'est que subordonné comme créature, il est toujours possible de faire appel du monde à celui qui l'a créé. Et l'autre option qui est exclue, c'est l'option du chaos. Et c'est une option vers laquelle se tournent nombre de nos contemporains aussi, surtout parmi les intellectuels, les penseurs. Il n'y a aucun sens, tout est absurde. Oui, des sensations défilent, des sensations partent dans tous les sens, nous sommes pris dans un tourbillon, mais il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun sens. C'est le chaos. ce qui correspond peut-être à l'expression tohu et bohu. Précisément, Dieu n'a pas fait le monde tohu bohu, il l'a ordonné, il l'a créé de manière structurée, intelligente. Notre intelligence est en fait pour repérer cette intelligence avec laquelle Dieu a fait la réalité. Le monde n'est pas un tout qui ait son sens en lui-même, mais il a du sens. Et honnêtement, je crois que dans leur vie pratique de tous les jours d'ailleurs, même ceux qui disent qu'il n'y a aucun sens, tout est absurde, ne se conduisent pas comme si tout était absurde, il est certain qu'il y a des éléments de sens que l'être humain reconnaît dans le réel. Il y a des lois qui lui permettent d'agir de façon sensée. Il peut prévoir ce qui va se passer. Dans le chaos, absolument impossible. N'importe quoi arrive, il n'est même plus possible de nommer quoi que ce soit. Le chaos que certains philosophes de nos contemporains, en particulier ceux que l'on appelle postmodernes, affirment, est invivable, absolument invivable. Mais la doctrine de la création nous dit que bien que le monde n'ait pas sa clé en lui-même, qu'il subsiste du mystère pour celui qui le regarde, parce qu'il relève de plus haut que lui, le monde, cependant, a du sens. Ayant été créé par Dieu, il est édifié selon la sagesse de Dieu, et il est possible pour l'être humain d'en retrouver quelque chose, et d'en faire son profit pour sa conduite dans le monde. C'est là, me semble-t-il, au moins l'un des enjeux principaux de l'affirmation « Dieu créa ». Mais il y a un point qu'il faut aborder, c'est celui du rapport de l'affirmation « Dieu créa », en particulier telle qu'elle est déployée au début de la Bible, avec ce que nous disent les scientifiques, les savants qui nous parlent des origines de cette réalité que tout le monde voit, dans laquelle nous sommes pris. Ces savants disent un certain nombre de choses sur l'origine de la Terre, du système solaire, de la vie, des espèces vivantes. Il est très commun autour de nous, vous ne l'ignorez pas, que les gens se disent la Bible et la science sont en conflit, sont deux incompatibles. Si on croit la Bible, on est forcément anti-scientifique, et puis si on suit la science, on ne peut plus vraiment croire la Bible. Alors je pense qu'il faut être clair à ce propos, je ne peux aujourd'hui, nous rappelons les fondements, que donner des choses assez brèves. Vous trouvez plus de développement dans mon livre, par exemple, si ça vous intéresse, et dans d'autres. Mais il me semble qu'on pourrait dire que ce n'est jamais la science et la Bible qui sont véritablement en conflit, si l'on respecte clairement les choses, c'est toujours un abus de la science, un abus commis au nom de la Bible qui suscite le conflit. Science et Bible sont en parfaite harmonie, même si nous ne sommes pas toujours capables de le percevoir clairement. Mais qu'est-ce qui crée le conflit? C'est un gonflement orgueilleux ou simplement sot, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est le scientisme qui s'oppose à la Bible. C'est un littéralisme sot et qui ne tient pas vraiment compte de certaines indications du texte biblique qui s'oppose à la science. Vous voyez? Ce qui crée un choc de conflit, c'est cette extrapolation à partir de la science ou à partir de la Bible qui n'est pas vraiment conforme soit à la science, soit à la Bible. Quand des gens, au nom de la science, disent il est exclu qu'il y ait un Dieu, il est exclu que l'homme est une âme, par exemple, en fait, ce n'est pas du tout scientifique. Ils étendent les pouvoirs de la science bien au-delà de son champ d'investigation. Ils ne tiennent pas compte des limites méthodologiques qui doivent être reconnues et que reconnaissent d'ailleurs nombre de savants et de philosophes des sciences. C'est un abus. Il traite la science comme une sorte d'idole en lui conférant des pouvoirs, une autorité, une portée bien au-delà de ce qui est légitime. Donc, il y a conflit fatalement si l'on glisse de la science au scientisme. De même, je pense que nombre de problèmes viennent de ce qu'on a lu la Bible. Alors, il y a eu pas mal de gens, je reconnais, même des gens très bien, mais on a lu la Bible sans tenir compte d'un certain nombre de ces données et qu'on lui a fait dire ce qu'elle ne dit pas. On lui a fait dire, par exemple, que la création avait eu lieu 4004 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'un archevêque au XVIIe siècle, un archevêque anglican, avait déterminé. Et vous avez des gens aujourd'hui encore qui croient que la Bible enseigne non pas 4004, hein, mais que c'est environ 10-12 000 ans avant notre ère que la création a eu lieu. Mais vous avez un très grand nombre de savants évangéliques, très compétents en matière d'études bibliques, qui diront que c'est pas du tout fondé d'une manière sérieuse sur les textes scripturaires. Ceux qui attribuent au jour de la semaine créatrice, vous avez entendu la traduction de Chouraki tout à l'heure, une valeur littérale de jour de 24 heures comme nous, en succession, je crois avoir montré qu'ils se méprennent sur l'intention de l'auteur et qu'ils ne tiennent pas compte de données formelles dans les textes bibliques. J'en signale simplement une très rapidement. Les 6 premiers jours doivent être de la même sorte que le 7e, dans cette grande présentation. Or, notre Seigneur Jésus, au chapitre 5 de l'évangile de Jean, je crois, nous prouve que le 7e jour est le jour dans lequel s'insère toute l'histoire, que nous sommes encore, ou disons qu'il est, au moment où il parle, dans ce 7e jour qui est le sabbat de Dieu. Donc, il y a, à mes yeux, des preuves bibliques que le littéralisme en matière de Genèse 1, 2, 3 est une erreur. On fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Alors après ça, on se croit persécuté par le monde parce que les scientifiques ne sont pas d'accord, mais c'est simplement qu'on s'est mépris sur le sens du texte. Ma conclusion, pour autant que j'ai pu étudier cette affaire, je ne suis pas compétent dans le domaine des sciences, mais j'ai lu un certain nombre de milliers de pages, j'ai quand même fait un certain travail, et disons, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conflit insoluble de difficultés qui soient totalement irréductible, même s'il y a des questions qui restent encore en suspens, qu'il faut encore traiter, et c'est tout à fait normal qu'il y en ait, entre Bible et science. Et ce qu'on peut dire en riposte à ceux qui croient que science et Bible s'opposent, c'est qu'en fait c'est la vision biblique du Dieu créateur, du monde comme créé, qui est la seule base possible pour le travail scientifique. C'est justement parce que le monde n'est pas un chaos, qu'il est régi par des lois, mais que non plus il n'est pas un tout qui s'explique par lui-même et qui enfermerait l'homme, que la science est possible. Dans la démarche du savant, il y a le présupposé qu'il y a un ordre à retrouver. Mais dans cette démarche du savant aussi, il y a un mouvement de liberté par rapport à ce monde. L'homme, pour pouvoir comprendre le monde, est obligé, en quelque sorte, de s'en libérer. Ce qu'il peut, c'est le deuxième point que nous allons aborder, parce qu'il est, créé précisément en image de Dieu. Mais cela suppose que le monde n'est pas un tout fermé qui l'isolerait. Cette prise de distance qui manifeste la liberté humaine est nécessaire à la science. Le savant est libre face au phénomène qu'il essaye d'interpréter. Il se dit, est-ce que c'est ça? Je forge une hypothèse, etc., etc. Alors, ce n'est pas une liberté absolue, parce qu'après ça, il va tester pour savoir si c'est cette hypothèse A, ou l'hypothèse B, ou l'hypothèse C qui est la bonne. C'est pour ça qu'il fait des expériences. Mais il a montré sa liberté. Il n'est pas simplement enfermé dans un tout mondain, en forgeant diverses hypothèses, et il montre qu'il croit qu'il y a un ordre dans le monde, en allant ensuite interroger le réel par la voie expérimentale. Donc, je pense que cela est, disons, démontrable, en tout cas avec un haut degré de vraisemblance, quand on considère l'articulation même de la démarche scientifique, comme je viens de le faire, et puis c'est historiquement aussi démontrable, le grand essor de la science a été dû à l'influence de la Bible. C'est dans la zone de civilisation chrétienne où la Bible s'est implantée que la science expérimentale, qui a fait les progrès fantastiques qu'elle a pu faire, s'est développée nulle part ailleurs. Ça a été montré par plusieurs auteurs, y compris des non-chrétiens. Le philosophe Karl Jaspers, par exemple, juste pour citer un exemple, l'a clairement reconnu. Cette influence biblique, chrétienne biblique, a été indispensable à la naissance de la science. Donc, vous voyez, c'est retourner complètement les choses que de croire qu'il y a conflit inéluctablement. Alors, j'ai déjà parlé de l'humain, deuxième point, maintenant il faut que je le déploie. L'humain, c'est-à-dire Adam, que Chouraki traduit « glébeux ». Le mot de glèbe n'est pas si fréquent aujourd'hui en français, il veut dire la terre, il veut dire la terre. Alors, c'est en utilisant ce mot de glèbe pour la terre que le Chouraki traduit Adam le glébeux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il semble bien y avoir une relation de sens et d'étymologie dans le texte original entre la terre Adama et le nom pour l'humanité et le premier homme Adam. Une relation de sens. Certains prétendent, mais c'est disputé, hein, que en latin aussi, le mot homo, qui a donné humain et homme, le mot homo serait de la même racine que le mot humus, l'humus du sol. En tout cas, c'est sûr qu'en hébreu, vous avez cette relation que Chouraki a tenté de rendre avec le mot glébeux. Souvent terrien. Il y avait autrefois un commentateur à la radio, un éditorialiste qui s'appelait Claude Terrien. C'est un très beau nom, Terrien. Mais c'est ce que veut dire, en gros, Adam le Terrien. C'est dans cette créature, d'après le témoignage du début de la Genèse, c'est une créature, il est vraiment attaché à la terre, que se concentre le sens de la création. En tout cas de la création du monde visible. Bon, les anges sont autour de Dieu, mais pour le reste de la création, c'est clair quand on lit le début de la Genèse, tout monte vers l'homme. Dieu organise tout pour y placer l'être humain. Toute l'organisation du premier chapitre de la Genèse vise à montrer que le sens de tout ce que Dieu fait se montre dans la création de l'être humain. Il concentre en quelque sorte toute la réalité du monde pour représenter le monde auprès de Dieu, devant Dieu. Et pour assumer ce rôle, alors l'être humain doit être unique parmi les créatures. Il doit être une créature, et il l'est, et il est formé de la terre, de la glèbe, il est le glébeux si vous voulez, mais il doit être aussi unique parmi toutes les créatures du monde visible, et c'est ce que le texte exprime en disant que Dieu l'a créé en son image, comme sa ressemblance. Chouraki emploie les mots de réplique, de ressemblance, mais le mot image désigne l'effigie, la statue, l'image d'un conquérant qui met sa statue sur la place de la ville, c'est ce mot-là. Je crois que c'est finalement pour nous assez simple à comprendre. Dieu, qui a construit ce magnifique palais de l'univers, le temple, quel univers, y place son effigie vivante, son image, qui va le représenter. C'est l'être humain, Adam. L'être humain a cette fonction de représenter Dieu lui-même sur la terre. Je te suggère qu'on pourrait faire à peu près ce petit dessin-là. Voilà, pour l'être humain, toutes les réalités de la terre convergent vers lui. Vous mettez les arbres, les petites fleurs, les fruits, les animaux, un petit mouton. Tout converge vers lui. Tout le sens de la création se concentre en lui, mais lui-même en renvoie l'hommage au Créateur, qui est l'alpha et l'oméga. Voilà, mon astuce, c'est d'essayer de vous présenter la silhouette schématisée de l'être humain comme un peu une image de l'alpha oméga, qui est le Seigneur lui-même. Comment se marque ce privilège de représenter le Seigneur, ce privilège d'être son effigie vivante, c'est-à-dire un peu comme le Fils pour un Père? Et le texte de la Bible au chapitre 5 de la Genèse utilise la même expression en nous disant que Adam, à son tour, a engendré un fils en son, comme son image, en sa ressemblance. Comme pour nous dire, c'est un peu comme si, créaturel bien sûr, une créature, c'est pas le Fils éternel, mais comme si l'homme était un fils terrestre qui représente le Père. Comment se marque ce privilège unique de l'humanité? Il se marque par la domination et la tâche de conquérir le monde, non pas d'une manière violente, mais en le servant à la manière d'une mise en valeur. L'homme représente Dieu qui est le Seigneur de tout, et il va donc soumettre la terre. Mais par quel trait le pourra-t-il? Qu'est-ce qui, dans la description qu'on peut faire de lui, montre qu'il est image de Dieu? Je pense que le texte nous suggère deux traits principaux qui sont importants à mettre en valeur, et il y a une belle correspondance aussi avec l'expérience humaine: le langage et la liberté. Et les deux vont d'ailleurs très, très étroitement ensemble. Dieu crée par la parole. Dieu parle et les choses arrivent et se mettent en place. Comment est-ce que l'homme va dominer? Eh bien, d'après le chapitre 2 de la Genèse, il domine sur tous les animaux que Dieu fait défiler devant lui en leur attribuant leur nom. Je trouve malheureux que Chouraki ait traduit « crier » chaque fois. C'est un verbe qui s'emploie de manière très, 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 très courante pour tout usage de la voix, et pas forcément un usage criard. Donc c'est dommage qu'il ait employé ça. Peut-être parce qu'il y a une assonance avec le français. C'est cara, cara crier, peut-être qu'il s'est dit ça, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est un peu dommage parce que c'est pas du tout le sens de crier, de se forcer à atteindre un grand nombre de décibels. Mais c'est tout à fait clair au chapitre 2 de la Genèse. La seule chose qu'on voit l'homme faire par rapport aux animaux qu'il est appelé à dominer, c'est de leur donner des noms. C'est par le langage que l'homme se distingue des animaux, même s'il y a quelques langages animaux, c'est très rudimentaire, c'est l'homme seul qui a vraiment le langage. C'est par le langage qu'il domine la terre. C'est grâce au langage qu'il constitue la science et les techniques qui dérivent des sciences. Et le langage montre qu'il n'est pas enfermé, selon mon image de tout à l'heure, dans le monde. Qu'il prend ses distances. Il ne colle pas au réel. L'animal, lui, il est en plein dans le réel, il n'en décolle pas. Il ne peut pas en sortir. Mais qu'est-ce que le langage? C'est la faculté de parler de quelque chose qui n'est pas là, de prendre du recul par rapport aux objets, aux animaux, aux fleurs, etc., et penser à leurs propos, dire je vais faire ci avec ça, etc., bien loin, à distance. C'est ce privilège de l'homme de n'être pas seulement du monde, en quelque sorte, mais d'avoir une liberté qui l'en détache. Alors le deuxième point, c'est la liberté, précisément, qui va avec le langage et qui est très très marquée par le commandement que donne le Seigneur à l'homme en Éden. Il y a deux arbres qui représentent deux choix. Le choix de la dépendance bienheureuse du fils qui sait sa dette à l'égard de son père et qui est heureux de collaborer avec lui, l'arbre de vie. De tout arbre, tu mangeras, tu mangeras, tu mangeras. Littéralement, c'est manger, tu mangeras. C'est comme ça que je l'ai mis dans ma traduction. Alors, on traduit de façon diverse. Ça s'appelle la tournure de l'infinitif absolu en hébreu. Manger, tu mangeras. Ça, on traduit le plus souvent, tu le mangeras librement, tu mangeras... disons certainement, Chouraki, lui, a choisi simplement de répéter, tu mangeras, vous l'avez entendu tout à l'heure. Mais c'est une façon, donc, d'accentuer, c'est une forme de soulignure, pourrait-on dire, dans la rédaction même. Donc, il y a l'arbre de vie, au milieu de tous les arbres dont il est permis à l'homme de manger, auquel il est invité à manger, tu mangeras avec une pleine liberté à satiété, et cet arbre de vie représente la relation avec Dieu. Tu reconnais ta dépendance, tu reconnais que tu me dois tout, et tu en es heureux, c'est la vie pour toi. Et puis il y a l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et mal, qui représente la prétention de décider soi-même du bien et du mal. Alors là, c'est mortel. Si jamais tu fais ce choix-là, alors tu te détruiras toi-même. C'est la mort qui est au bout de ce chemin. Et les deux arbres représentent les deux choix, le choix normal, juste, bon, et le choix funeste. Et leur présence même souligne que l'homme est créé libre. De nouveau, comme aucun animal ne semble l'être. L'animal est rivé au programme que son instinct comporte. C'est un peu comme un ordinateur. Alors que l'homme est libre. Ce sont les deux traits de l'humain. Alors cette liberté est une liberté de créature, dans la dépendance, et cela veut dire que l'usage de cette liberté est régi par des lois, et en particulier de grandes dualités qui représentent des ordres divins. Nous tenterons d'en reparler un peu dans la leçon, si on peut parler de leçon suivante. Ce ne sera pas tout de suite, hein, parce qu'il va y avoir... Moi, je vais être en voyage en février, et puis au mois de mars, la séance d'Institut public sera sans doute supprimée, donc ce sera un peu plus tard, mais sur la loi et le commandement de Dieu. Et je signale dès maintenant qu'il y a la dualité du ciel et de la terre, la dualité de la nuit et du jour, du travail et du repos, et puis la dualité de l'homme et de la femme. Ce sont là les grandes dualités qui structurent l'existence humaine, l'exercice de la liberté, et il est très très typique que l'homme dévoyé, l'homme apostat, précisément essaye de perturber toutes ces dualités. Le jour et la nuit, par exemple. L'apôtre Paul soulignait que ceux qui se saoulent, ceux qui font la java, ceux qui font des mauvais coups, c'est la nuit, hein, c'est la nuit. Ils aiment la nuit. Et il y a une forme d'existence frénétique où l'homme essaye de fuir son angoisse et de se réaliser lui-même. C'est la nuit, hein, une vie artificielle. C'est très très typique. Et puis bien sûr le rapport entre l'homme et la femme. Perturber, démolir, renverser, Mais je n'insiste pas maintenant, parce que je pense que nous pourrons y revenir une autre fois, et je dis quelques mots, simplement, puisque le temps est pratiquement venu, sur l'apostasie, le drame, la catastrophe qui nous est racontée au chapitre 3 de la Genèse. On a pris l'habitude, vous le savez, de dire la chute, mais le mot chute peut induire une idée fausse. Il ne s'agit pas simplement d'un étage, il ne s'agit pas de tomber du deuxième étage de la réalité au rez-de-chaussée. Ce n'est jamais la Bible n'emploie cette image-là, en fait, pour le drame, pour la grande catastrophe. Si jamais l'image de la chute est employée, ça arrive dans quelques passages, c'est la chute quand on marche sur le chemin. C'est la chute quand on bute contre une pierre d'achoppement. On achoppe contre une pierre et on s'étale et on se fait mal. On peut se faire très mal. Mais autrement, dans Genèse 3, il n'y a même pas cette image-là. Dans Genèse 3, l'image est plutôt celle de la transgression, de la désobéissance, de l'écart. Dieu avait indiqué une voie, un beau chemin conduisant à la vie. Et que représente le drame ? Un écart. On franchit la limite, on bascule dans le décor. Là, c'est l'image de la voiture. Mais c'est plutôt cette image-là qui pourrait être employée pour décrire ce qui est la catastrophe. Désobéissance, trahison, parce qu'il y a un rapport personnel de loyauté entre Dieu et sa créature. Dieu est trahi par celui qui lui doit tout. Voilà ce qui arrive. Et du coup, il y a abus du privilège. Comment est-ce que cela se passe? C'est très intéressant à relever. La liberté est choix du mal. Prétention de connaître le bien et le mal. Mais c'est justement parce que l'homme a été créé libre qu'il est capable de faire ce choix funeste. C'est parce que l'homme est doué de langage qu'il peut dire non à Dieu. C'est parce qu'il est en image de Dieu qu'il peut croire qu'il sera comme Dieu, qu'il va pouvoir se hausser jusqu'au statut de Dieu qui connaît le bien et le mal, c'est-à-dire qui en décide, qui est le maître du bien et du mal. Oui. Ce qui est funeste, c'est pas quelque chose qui est dans la nature de l'homme. Il a été créé bon, c'est l'excellence même de sa nature, en image de Dieu, qui est utilisée ingratement et follement pour tordre et pour pourrir et finalement pour détruire l'humanité. Alors cela, le chapitre 3 de la Genèse le met en évidence, et il me semble qu'un grand thème de ce chapitre, c'est qu'en un sens, ce choix funeste ne réussit pas à abolir l'œuvre de Dieu. Surtout que Dieu, là, veut s'en occuper. La mort qui commence à régner n'est pas un nettoyage par le vide. L'homme reste toujours là. La création subsiste. Le mal n'a pas la puissance, en quelque sorte, de l'effacer. Tu ne lui laisses pas, en tout cas. Donc, tout subsiste et pourtant tout est changé. Tout subsiste, mais tout est détraqué, tout ce qui était harmonieux devient grinçant, tout ce qui était bienheureux devient pénible, etc. Oui. C'est cela que fait apparaître, me semble-t-il, le chapitre 3 de la Genèse. Dieu avait prévu la bénédiction qui est un reflet, comme nous avons dit tout à l'heure, de sa puissance créatrice même, la bénédiction des enfants, la bénédiction de la procréation. Ce n'est pas aboli. Dieu le maintient. Mais ça devient pénible. Je multiplierai ta peine, tes grossesses, dit Jésus, dit le Seigneur. Dieu avait créé l'homme et la femme. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, et la bonté intense de l'œuvre créatrice avait requis cette création de la femme comme le vis-à-vis. Hein, c'est contre, au sens de tout contre. Il a employé contre, vous l'avez remarqué, Chouraki, mais La formule hébraïque signifie le face-à-face, le vis-à-vis. Et on pourrait dire, si c'est contre, alors c'est dans le sens tout contre. L'homme et la femme, tout contre l'un de l'autre. Cette merveille de Dieu n'est pas purement et simplement abolie. Subsiste le couple, subsiste une forte pulsion portant l'un vers l'autre, et il dit à la femme, à ton homme ira ta passion, dans la traduction. Moi, je pense que la meilleure traduction, c'est le mot élan, désir élan. Mais lui dominera sur toi. Le rapport du couple est faussé, et l'homme profite de cette orientation fondamentale qui vient de la création pour dominer, pour exploiter. Donc subsiste la structure de la création, mais faussée, devenue pénible. L'homme continue de travailler la terre. Il avait été mis dans le jardin pour être un bienheureux jardinier et profiter de tous ses beaux fruits. Ce n'est pas aboli, mais ça devient pénible. Des chardons, des ronces qui vont pousser. Et au bout du compte, la mort. Une mort comme les animaux la connaissent, et pourtant différente de celle des animaux, parce que l'homme ne cesse pas simplement d'exister, mais il va vers une perdition. Et cette perdition alors est représentée par cette impossibilité d'accéder à l'arbre de vie. Toute la sainteté de Dieu, toute la puissance de Dieu dans sa création, représentée par l'épée tournoyante, l'épée de feu et les kérouvim, c'est toute la puissance de Dieu interdit à l'être humain apostat, traître à son Dieu, d'accéder à l'arbre de vie. C'est la mort éternelle, le châtiment éternel, qui est la seule suite logique. Seulement il y a Dieu. C'est la suite logique si l'on considère ce qu'a fait l'humanité. Mais il y a aussi un rayon d'espérance dans ce passage. Et ce rayon d'espérance me semble lié au fait que l'homme et la femme ont été entraînés dans leur folie par un tentateur. Il y a aussi, et c'est là que je termine, il y a aussi le serpent qui nous apprend le Nouveau Testament et le diable. Il faut voir dans cette figure, le diable, il est appelé le serpent ancien, le diable, au chapitre 12 et au chapitre 20 de l'Apocalypse. Pourquoi est-ce que c'est le serpent qui le représente? Je crois que c'est très intéressant pour nous de le percevoir. Il y a sans doute le symbole universel de l'insinuation habile. Peut-être le fait que le serpent paraît nu comme l'être humain. Il y a un jeu de mots dans le texte, Chouraki a été même au-delà du jeu de mots en disant « le serpent était le plus nu ». En fait, non, c'est une forme légèrement différente, il y a « arum » et « arom » et ça veut dire « rusé », c'est traduit par tout le monde, « rusé ». Mais c'est quand même, il y a un jeu de mots. La nudité fait différer l'être humain des animaux. Or, le serpent paraît nu aussi. Il y a comme une affinité de ce côté-là, qui peut symboliser l'affinité des esprits, comme le diable est un esprit, et l'homme doué d'esprit, de langage et de liberté. Et puis alors, il faut surtout nous rendre compte que le serpent était une figure alliée de l'humanité à l'époque. Il y avait des gens qui vénéraient le serpent qu'on considérait comme le connaisseur des secrets des profondeurs de la terre, était appelé à la rescousse pour soigner, pour donner la vie. C'est pour ça qu'on l'a encore sur le caducée, les médecins et les infirmières, ils ont un petit serpent. C'est à cause de cette figure du serpent. Et si le Satan est représenté par un serpent, c'est parce que il nous tente de manière séductrice, comme celui qui viendra nous aider, qui viendra nous permettre de mieux guérir, qui connaît les secrets, qui va nous les faire deviner. C'est un avertissement en ce qui concerne les ruses de Satan, les apparences positives de ce qu'il apporte. Voyez. Et le Seigneur dénonce cette ruse destructrice, mais du même coup, il prend le parti de l'humanité qui est aussi victime, qui est coupable, mais qui est aussi victime. L'honneur de Dieu est engagé. Le serpent a gagné une manche. Dieu veut sa revanche. Et il l'annonce au chapitre 3 de la Genèse. Le serpent ne l'a pas emporté. Il n'a pas gagné la guerre, même s'il a gagné une bataille dramatiquement. Et la guerre va continuer et elle va se terminer par l'écrasement de la tête du serpent, par celui qui descendra de la femme. Alors ça, c'est la suite. Dans le reste de la Bible, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais bien sûr, dans des leçons ultérieures, nous aurons à y revenir. Merci pour votre attention. Oui.
Il y a des questions, à mon avis, d'après ce que j'ai pu comprendre, je pense que le scientisme dont vous avez parlé avant, comment je pourrais dire, il empêche aussi le désir de perdre de la parole des gens dans le cœur de l'homme. Mais le scientisme aussi, de l'autre côté, empêche aussi parfois l'homme de croire. Si on est trop scientifique dans la tête, ça ne va pas dans notre cœur. Et si on est un scientifique dans le sens des hommes, on ne peut pas accéder à Dieu. Donc, on peut voir de façon agir.
Oui. Tout à fait d'accord. Donc, il faut bien distinguer entre la science et le scientisme. Donc, ce scientisme, c'est ce culte de la science, comme si la science était une religion ou une idole. C'est cette façon de dire il n'y a de vérité que ce qui peut se prouver par la méthode scientifique. Rien d'autre ne doit être admis. La science peut nous conduire sur le chemin du bonheur, peut nous donner la réponse à tout. C'est ça le scientisme. Et bien sûr, ça bloque aussi par rapport à la foi. C'est un orgueil dément de l'être humain qui s'affirme par là.
Que le reflet de Dieu à travers sa création, moi je pense qu'on n'est pas créateur en tant qu'être humain, et en tant que Dieu on est premièrement co-créateur. Ça c'est mon avis. Puis je pense que ce reflet de Dieu à travers la co-création d'un peintre, de tout artiste, plus le reflet de Dieu peut passer, plus l'artiste s'abandonne et travaille avec son cœur, c'est-à-dire l'espace est Dieu à travers lui. Plus l'artiste est canal et arrête de penser avec sa tête, plus il va parler de Dieu. Ça, c'est mon avis. Je
Je crois qu'il ne demande pas la parole. Je dirais que j'ai un point de différence avec ce que vous venez de dire. J'ai un point de différence, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit très biblique d'opposer la tête et le cœur. Le cœur, c'est l'organe de l'intelligence, donc dans la Bible. Donc je ne n'utiliserai pas, disons, cette terminologie.
Nous la tête et le cœur, simplement je ressens que parfois on est trop dans sa tête et pas assez dans son cœur.
Oui. Mais je pense que les deux sont ensemble dans la. Si vous voulez, le cœur, c'est la tête dans la perspective biblique. Donc il ne faut pas dire il y a deux lieux en quelque sorte. Mais il est sûr, je crois que je rattrape tout à fait ce que vous voulez dire en disant que dans les fonctions du cœur, qui sont au bout du compte inséparables. Mais il y a des distinctions qu'on peut faire entre l'intuition, par exemple, un sentiment qui n'est pas dirigé, mais de sensibilité passive qui reçoit, et puis l'activité constructrice de l'intelligence, des raisonnements qui suivent des étapes tout à fait prescrites. Je pense qu'on peut distinguer cela en effet, et qu'il y a des déséquilibres qui sont nuisibles entre ces différents aspects. Mais alors, le point le plus intéressant que vous avez excusez-moi, soulever concerne cette expression co-créateur. Je ne l'emploie pas dans la mesure où je craindrais qu'on mette l'homme comme au niveau de Dieu, avec le co, parce que quand on dit co-signataire, ben c'est l'un signataire et l'autre, etc., c'est souvent au même niveau, mais en même temps je pense que c'est intéressant et que ce que vous avez à dire là mérite d'être médité, que vous pourriez avoir un argument biblique assez fort en votre faveur, en faveur de l'expression même co-créateur, dans l'exclamation d'Ève au chapitre 4, verset 1er. J'ai procréé, moi c'est comme ça que je traduirais, en tout cas le verbe, on traduit souvent j'ai acquis, mais moi je pense que c'est procréer un homme avec l'Éternel. Donc nous avons effectivement là une expression avec, et puis il y a dans les épîtres de Paul l'expression des collaborateurs de Dieu, nous sommes les collaborateurs de Dieu. Donc vous avez un soutien biblique. Moi j'ai peur qu'on s'imagine alors que l'homme se hisse au niveau de Dieu, donc je préfère employer une autre expression, dire que je dis que dans son activité l'homme est en image de Dieu comme paracréateur, et l'artiste pour moi est un paracréateur et un procréateur par les enfants que Dieu donne. Mais je crois que, vous voyez, je précise les points de vocabulaire, mais je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Bon, nous avons atteint l'heure, donc je pense que il vaut mieux réserver des questions aussi à la prochaine fois, sauf s'il y en a une qui brûle énormément. Mais... Oui. Attendez, qui est-ce qui demande la parole? Ah, c'est là-haut, ah, d'accord, c'est pour ça. Non, je ne pense pas. Non. Ni, vous voyez, il y a deux hypothèses, hein, mais dans les deux cas, je dirais non à votre question. On peut penser que le Jardin d'Éden correspond à un lieu très précis qui se trouvait sur la carte à l'époque. Mais si c'est ça, les choses ont été tellement modifiées, les fleuves en particulier ont été modifiés, le déluge a changé tellement de choses qu'on ne peut plus retrouver sur la carte. Ou bien on peut croire que c'est une façon de nous parler de toute la terre primitive, la terre faite comme un jardin pour l'homme. Mais dans ce sens-là, non plus elle n'existe plus, puisque le péché a fait que l'homme en a été chassé, et qu'ensuite elle s'est remplie de violence et que Dieu a amené le déluge. Dans la deuxième hypothèse, c'est essentiellement symbolique, c'est-à-dire c'est une façon de parler d'une réalité, mais de la terre originelle dans sa splendeur, dans son harmonie pour l'homme au commencement. Alors le sabbat de Dieu, je crois que cela désigne tout son repos une fois qu'il a terminé de créer, tout l'espace de temps dans lequel s'insère l'histoire. Dieu se repose, jouit de la perspective de ses œuvres, son sabbat à lui, son septième jour, c'est depuis la création, puis ça continue. C'est ça ce que la logique de Jésus dans Jean 5 implique. Alors, la semaine humaine est une image de la semaine divine, et pour l'homme ce sera un septième jour avec une fin. Pour Dieu c'est un sabbat qui dure. Et alors, comme Jésus fait une guérison le jour du sabbat, qu'on lui reproche d'être actif ce jour-là, il réplique en disant « Je fais comme mon Père ». Mon Père, jusqu'à maintenant, agit. Son sabbat n'est pas une paralysie. Donc ça suppose que toute l'histoire pendant laquelle Dieu agit, jusqu'à maintenant, c'est le sabbat de Dieu, c'est le septième jour. La logique de Jésus présuppose qu'il interprète le septième jour de la Genèse comme tout le temps qui se déroule jusqu'au moment où il parle. Voilà l'argument que je résume, hein, mais que j'ai évoqué tout à l'heure encore plus brièvement. Bon, il y a madame d'abord, puis peut-être vous ensuite, si des gens doivent partir, hein, je ne...
Oui, oui.
Mais l'humanité,
Oui. Oui, alors l'humanité est beaucoup plus jeune que le cosmos. Dans les horloges figurées des savants, on peut dire que sur l'année de l'existence même de l'univers, l'apparition de l'homme, c'est il y a deux secondes, oui, sur une année. De toute façon, dans les chronologies scientifiques, c'est très très récent. Mais c'est vrai que c'est plus que 12 000 ans quand même. 12, 15 000 ans, ça représente, donc 12 000 ans en gros, ça représente le néolithique. Et la difficulté pour nous, principalement, et à mon avis nous ne pouvons pas, disons, affirmer très dogmatiquement la solution, c'est de savoir où se loge Adam. L'homme en image de Dieu, parce qu'il y a des formes qui préludent à la venue de l'homme, qui se rapproche de l'humanité que Dieu a faite dans le déroulement de cette création, mais à partir de quand avons-nous l'humanité au sens biblique, Adam? Et j'incline vers l'idée que ce serait il y a à peu près 40 000 ans, 40-45 000, l'humanité qu'on appelle l'humanité moderne en anthropologie, l'humanité correspondante à la dénomination Homo sapiens sapiens, sapiens redoublé, c'est ça l'humanité moderne, qui commence en gros il y a 40-50 000 ans, mais ce n'est pas libre de toute difficulté, je ne suis pas dogmatique sur ce point, ça me paraît la meilleure solution, mais je ne peux pas en dire plus. Oui, ce qui vient d'être dit. Oui, alors, je crois que l'évolutionnisme comme solution philosophique à toutes les difficultés, comme une réponse à la question pourquoi, est exclu. C'est un mythe, assez religieux, et il s'oppose à l'affirmation biblique « Dieu créa ». Mais que Dieu se soit servi de procédures évolutives dans certains segments de son œuvre créatrice, pour la diversification des formes vivantes par exemple, je pense qu'il n'y a pas d'a priori qui l'exclut. Je pense qu'on peut tout à fait penser même qu'il y a quelques suggestions dans les commandements indirects de Genèse 1 qui pourraient favoriser cette idée-là. Que la terre produise, par exemple, est-il dit. Donc, comme procédure utilisée par Dieu, ce n'est pas exclu, ce n'est pas absolument prouvé, ça paraît assez vraisemblable. Voilà en gros la solution. Alors j'en traite assez longuement dans mon livre. Vous pouvez vous y référer si vous souhaitez. Bon, voilà, mais... Oui, alors là, je pense qu'il s'agit de la nouvelle création, pas de l'ancienne. Que Dieu parle, c'est au chapitre 48 en particulier d'Ésaïe, que Dieu parle des réalités de la nouvelle création qui vont être mises en branle, qui correspond à la rédemption.